Les critiques se sentent réellement mal à l'aise et la tolérance esthétique n'empêche pas l'anathème. Car il leur paraît inadmissible qu'une femme bouscule à ce point les valeurs et les fondements de la société patriarcale que sont la famille et la maternité. Vivien sent alors s'élever une forte réprobation qu'elle ne conçoit pas et qu'elle refuse. Certains critiques, tels Léon Boquet de la revue littéraire Le Beffroi, convaincus et impressionnés par la valeur du poète, invoquent des arguments supérieurs, à savoir qu'il ne faut pas juger René Vivien selon nos lois et nos morales traditionnelles. Mais Vivien intériorise avec amertume son sentiment d'échec.
Il écrit « L'arc triomphal est là, clair, parmi les nuits noires. Mais quand passerai-je sous l'aile de mes victoires ? Je le sais, aujourd'hui cela fait moins de mal. Je ne passerai point sous un arc triomphal. Et je n'entendrai point la voix ivre des femmes qui sanglotent. Voici l'offrande de nos âmes. Résignées et songeant aux défaites passées, j'aurai sur moi le bruit de leurs ailes glacées. Comme un arc triomphal plein d'ocres et d'azur, les horizons du soir s'ouvrent, larges et purs. »
Nous sommes en 1906 et le poème qui vient d'être dit appartient au recueil « À l'heure des mains jointes ». Vivien, intensément bouleversé par les blâmes de la critique, se croit poursuivi par l'hostilité générale. Elle déplore l'incompétence des critiques. Sans avoir à justifier ses choix dans ce nouveau recueil, elle affirme sa manière d'être dans une tonalité différente. Le titre, qui reprend un vers de Rossetti, « L'heure de la douceur sororale, main dans la main », semble vouloir traduire un apaisement par rapport au recueil précédent. Riche recueil, en effet, auquel elle attache une grande importance, puisqu'elle en demande un tirage de 2200 exemplaires. Elle y exprime des sentiments moins passionnés, allant de la quiétude à l'exaltation et parfois au désespoir. Elle y parle souvent sur le ton de la confidence pour exprimer la tendresse et la gratitude envers Hélène de Zuylen, amie dont elle apprécie la présence à ses côtés. Cependant, la sororité est-elle bien suffisante à stimuler l'inspiration d'un poète ? Pas vraiment. Et les lys du passé, comme l'heure amoureuse où chante la sirène, témoignent de la permanence d'une passion refoulée devenue sous-jacente et le beau visage effacé de Nathalie ressurgit. Appartient-il vraiment au passé ? Ainsi qu'elle essaie de s'en convaincre.
J'ai puérilisé mon cœur dans l'innocence de notre amour. Éveil de calice enchanté. Dans les jardins où se parfume le silence, où le rire fêlé retrouve l'innocence, ma douce, je t'adore avec simplicité. Tes doigts se sont noués autour de mon cœur, rude, en un balbutiement pareil au cri naïf de l'inexpérience et de la gratitude. Je te dirai comment, lasse de la mer rude, je bénis l'ancre au port, où s'amarre l'esquif. Tes cheveux et ta voix et tes bras m'ont guéri. J'ai dépouillé la crainte et le furtif soupçon et l'artificiel et la bizarrerie. J'abrite ainsi mon cœur de malade guéri sous le toit amical de la bonne maison. J'ai la sécurité pourtant un peu tremblante de celle dont les yeux d'avoir pleuré sont lourds. Et je me réjouis de l'herbe et de la plante dans ces jardins au bleu midi, un peu tremblante d'avoir trop redouté l'aspect des mauvais jours. À l'heure sororale et douce des mains jointes, j'ai contemplé sereine un visage effacé, tel les convalescents aux fraîches courtes pointes, la fièvre disparue. À l'heure des mains jointes, je t'ai donné les derniers lys de mon passé.
Dans ce recueil est également réaffirmée la référence à Sappho. Du fond de mon passé, je retourne vers toi, Mytilène, parure et splendeur de la mer. De même, la révolte y est persistante. Écoutons-la déverser en nouveau son mépris envers l'institution du mariage. Il s'agit du mariage de son amie Lucie de la rue Mardru avec le docteur Mardru, orientaliste célèbre, traducteur des Mille et une nuits, mais non moins apostrophé avec dédain dans le roman Une femme apparue, où Vivien s'exclame « Quelle pitié de voir cette fleur à côté d'un pareil marchand de bazar !»
Le soir s'est refermé, telle une sombre porte sur mes ravissements, sur mes élans d'hier. Je t'évoque, ô splendide, ô fille de la mer, et je viens te pleurer comme on pleure une morte. L'air des bleus horizons ne gonfle plus tes seins, et tes doigts sans vigueur ont fléchi sous les bagues. N'as-tu point chevauché sur la crête des vagues, toi qui dors aujourd'hui dans l'ombre des coussins? L'orage et l'infini qui te charmaient naguère, n'avaient-ils point parfait, et ne valaient-ils pas le calme conjugal de l'âtre et du repas et la sécurité près de l'époux vulgaire? Tes yeux ont appris l'art du regard chaud, et moi, tes yeux ont appris l'art du regard chaud et molle et la soumission des paupières baissées. Je te vois, alangui, au fond des gynécées, les cils fardés, le cerne agrandi par le col. Tes paresses et tes attitudes meurtries ont enchanté le rêve épais et le loisir de celui qui t'a pris le stupide plaisir. Ô toi qui fus hier la sœur des Valkyries, l'époux montre aujourd'hui tes yeux, si méprisant jadis, tes mains, ton col, indifférent de signes, comme on montre ses blés, son jardin et sa vigne, aux admirations des amis complaisants. Abdique ton royaume et sois la faible épouse sans volonté devant le vouloir de l'époux. Livre ton corps fluide aux multiples remous. Sois plus docile encore à son ardeur jalouse. Elle se moque là, hein? Garde ce piètre amour qui ne sait décevoir. Ton esprit autrefois possédé par les rêves. Mais ne reprends jamais l'âpre chemin des grèves où les algues ont des rythmes lents d'encensoir. N'écoute plus la voix de la mer, entendue comme un songe à travers le soir aux voiles d'or, car le soir et la mer te parleraient encore de ta virginité glorieuse et perdue.
Oui, on peut en rire de sa virginité glorieuse et perdue parce que le docteur Mardru appelait sa femme la princesse Amande. Plus fort encore dans ce recueil, elle plaide sa vérité de métaphysique de lesbienne en clamant une profession de foi païenne dans des stances adressées directement au Christ comme meilleur témoin de sa sincérité. Il ne faudrait pas se méprendre. Vivien a toujours détesté les institutions religieuses. Mais sa nature cosmique est foncièrement panthéiste et à ce titre, elle a toujours manifesté une vraie empathie envers la personne du Christ qu'elle considère victime comme elle de l'incompréhension des puissants et des imbéciles, catégories superposables et non moins compatibles. On ne peut s'empêcher de faire ici un bref détour pour signaler un opuscule burlesque et ironique écrit par Vivien qui s'intitule « Le Christ, Aphrodite et Monsieur Pépin ». Monsieur Pépin étant un journaliste. Comme quoi elle avait dans le collimateur les critiques journalistiques. Cette pièce en prose, considérée comme simple exercice ou caprice par certains, postule notamment dans le titre une relation triangulaire suffisamment polémique pour être remarquée. Sans aller plus loin, revenons aux stances qui nous occupent et on fait dire à certains, à Huysmans, plus tard à Yves-Gérard Le Dantec, qui fut un de ses biographes, que cette païenne avait au fond une âme de chrétienne. Mais c'est là encore un autre débat. Contentons-nous de dire ici qu'elle n'était pas en tout cas une bonne chrétienne, puisque nous allons le voir, la notion de péché lui est étrangère, contrairement à Baudelaire, à qui on l'a abusivement comparée, et d'ailleurs dont elle n'aimait d'ailleurs pas les femmes damnées. C'est elle qui le dit. Écoutons cette confession que certains qualifièrent à l'époque de « poème damné des plus admirables qui soient ».
Voilà le poème damné. Si le Seigneur penchait son front sur mon trépas, je lui dirais « Ô Christ, je ne te connais pas. Seigneur, ta stricte loi ne fut jamais la mienne et je vécus ainsi qu'une simple païenne. Vois l'ingénuité de mon cœur, pauvre et nu. Je ne te connais point, je ne t'ai point connu. J'ai passé comme l'eau, j'ai fui comme le sable. Si j'ai péché, jamais je ne fus responsable. Le monde était autour de moi tel un jardin. Je buvais l'aube claire et le soir cristallin. Le soleil me saignait de ses plus vives flammes et l'amour m'inclina vers la beauté des femmes. Voici, le large ciel s'étalait comme un dais. Une vierge parut sur mon seuil. J'attendais. La nuit tomba. Puis le matin nous a surprises, maussadement de ses maussades lueurs grises. Et dans mes bras qui la pressaient, elle a dormi, ainsi que dort l'amante au bras de son ami. Depuis lors, j'ai vécu dans le trouble du rêve, cherchant l'éternité dans la minute brève. Pourtant la nuit approche, et mon nom périssable s'efface, tel un mot qu'on écrit sur le sable. L'ardeur des lendemains sait aussi décevoir. Nul ne murmura, nul ne murmurera mes strophes vers le soir. Vois maintenant, Seigneur, juge-moi, car nous sommes face à face devant le silence des hommes. Autant que doux, l'amour me fut jadis amer et je n'ai mérité ni le ciel ni l'enfer. Je n'ai point recueilli les cantiques des anges. Je n'ai point recueilli les cantiques des anges pour avoir entendu jadis des chants étranges. Les chants de ce Lesbos dont les cœurs se sont tus, je n'ai point célébré comme il sied tes vertus. Mais je ne tentais point de révolte farouche. Le baiser fut le seul blasphème de ma bouche. Laisse-moi, me hâtant vers le soir, bienvenue, rejoindre celles-là, au pluriel, qui ne t'ont point connue.
Nous avançons dans le temps et nous sommes maintenant en 1907. Je rappelle que Renée Vivien a très peu vécu et qu'elle est décédée en 1909. En 1907, deux événements vont sonner les années noires du déclin final. D'abord, la liaison avec Hélène de Zuylen touche à sa fin. Et la mutation de Jean-Charles Brun dans un lycée de province la prive d'un ami sûr et d'un appui solide. Elle se trouve désemparée, amèrement déçue et meurtrie par l'incompétence, par l'incompréhension, et par l'anathème jeté sur ses écrits. Elle se sent vaincue et pense que même sa mission de poète lui échappe. Et elle écrira dans un poème « Et j'ai vu m'échapper l'amour comme la gloire. Je l'ai compris et nul ne me lira jamais. » Puisqu'il en est ainsi, elle décide de retirer ses livres du commerce et fait part de sa triste résolution dans une lettre à Nathalie Barnet. « Je ne vendrai plus mon âme à 3,50 €. » Ce geste n'est pas un renoncement. C'est un refus de ne rien concéder à la morale impure qui la condamne. Et c'est aussi une gifle à la critique et au public indigne de la lire. Cette attitude est tout à fait conforme à son caractère entier. Résignée, elle s'éloigne, se fait oublier en voyageant de plus en plus et de plus en plus loin. Jusqu'à l'épuisement complet de ses forces, elle ne cessera jamais d'écrire et de publier, et ce jusqu'à son dernier jour, mais à des tirages confidentiels. Flambeau éteint n'aura qu'une centaine d'exemplaires, d'où la difficulté de les retrouver aujourd'hui. Sera édité et sera édité hors commerce, et exclusivement à l'intention d'amis dignes et capables de la comprendre, et des femmes pour qui elle écrivit.
voyant paraître enfin la lune à l'arc d'argent, je me repose et me désennuie en songeant. Vous fûtes la douceur de mes heures mauvaises, le baume oriental qui trompe les malaises. Et vous m'avez conduite en un verger païen où l'âme ne regrette et ne désire rien. Vous fûtes le jardin du soir sur mon visage et la volupté triste et la tristesse sage. Au hasard du destin, vous fûtes tour à tour la sereine tendresse et le mauvais amour. Je vous prends et je vous respire, mes aimés, ainsi qu'une guirlande aux fraîcheurs embaumées. Vous avez su tourner vers vous tous mes désirs et vous avez rempli mes mains de souvenirs. Je vous le dis à vous qui m'avez couronné, qu'importe les demains, cette nuit m'est donnée. Qu'importe désormais ce qui passe et qui fuit, nul vent n'emportera l'odeur de cette nuit. La gloire m'a souri dans les aubes dorées, puisque ma gloire est de vous avoir adoré. Et d'une voix parfois troublée et parfois claire, ô femme, j'ai chanté dans l'espoir de vous plaire.
1908, c'est le chant du cygne dans un dernier grand recueil intitulé « Sillage ». Trois autres recueils suivront et ne verront le jour qu'après sa mort. Dans un coin de violette, le vent des vaisseaux et le tout dernier, Haillon. Sans les ouvrir ici, leurs titres même traduisent la résignation, la mélancolie et le désespoir. Mais il est temps de clore ici cette évocation en rappelant sur une note glorieuse que, contrairement à ce qu'elle a craint et loin d'avoir échoué, René Vivien a réussi la mission de poète qui lui tenait à cœur. Les thèmes modernes et universels de son génie poétique et la forme classique parfaite de son art la classe parmi les plus grands poètes. En donnant à la poésie ce monument lesbien et original, elle a conquis la part la plus glorieuse de sa mission. Elle a rendu à Sappho l'authenticité lesbienne que la tradition littéraire lui avait ôtée. Et elle est créatrice d'un féminisme gynocentré que l'actualité ne dément pas. Comment aborder les notions modernes de genre en oubliant les conceptions de René Vivien ? Enfin, elle a arraché des mains de Baudelaire le flambeau qu'il comptait définitivement porter, disant orgueilleusement que Lesbos, entre tous, l'avait choisi sur la terre pour chanter le secret de ses vierges en fleurs. Elle mérite notre lumineuse reconnaissance littéraire pour ce grand moment de la poésie humaine qu'elle a incarné. Cédons-lui la place, en écoutant dans un dernier poème ce beau cri de sensualité qui a parcouru toute son œuvre, qualifié à juste titre d'élévation vers la beauté, et nous nous permettrons d'ajouter vers la vérité.
Ça, c'est mon préféré. Je possède en mes doigts subtils le sens du monde, car le toucher pénètre ainsi que fait la voix. L'harmonie et le songe et la douleur profonde frémissent longuement sur le bout de mes doigts. Je comprends mieux en les frôlant les choses belles. Je partage leur vie intense en les touchant. C'est alors que je sais ce qu'elles ont en elles de noble, de très doux et de pareil au chant. Car mes doigts ont connu la chair des poteries, la chair lisse du marbre au féminin contour que la main qui laissait modeler a meurtri, et celle de la perle et celle du velours. Ils ont connu la vie intime des fourrures, toisons chaudes et superbes où je plonge les mains. Ils ont connu l'ardent secret des chevelures où se sont effeuillés des milliers de jasmins. Et pareil à ceux-là qui viennent des voyages, mes doigts ont parcouru d'infinis horizons. Ils ont éclairé mieux que mes yeux des visages et m'ont prophétisé d'obscures trahisons. Ils ont connu la peau subtile de la femme et ses frissons cruels et ses parfums sournois. chair des choses. J'ai cru parfois étreindre une âme avec le frôlement prolongé de mes doigts. Voilà. Lucie connaît très bien René Vivien. J'ai eu l'honneur de voir sa bibliothèque. C'est impressionnant. Et encore l'autre jour, tu as acquis, tu peux dire quoi ?
Dis tes trésors. Oui. Alors, j'ai fait l'acquisition. J'ai fait l'acquisition d'une des rares photographies de René Vivien qui a dû être tiré à une dizaine d'exemplaires, qui a été trouvé à Londres par mon ami libraire Chantal Bigot de la librairie Les Amazones. Est-ce que vous connaissez Chantal Bigot ?
Oui, voilà.
Vous connaissez ? Voilà. Donc j'ai fait l'acquisition de cette photo à Londres par l'intermédiaire de Chantal Bigot de la librairie Les Amazones et qui a été.
La librairie Les Amazones.
Alors c'est une librairie parisienne qui est essentiellement spécialisée dans la mémoire des écrits de femmes et qui avait pour sous-titre « Écrits de femmes, mémoire d'elles ». C'est tenu par une lesbienne, oui, Chantal Bigot. Et donc, lorsque j'ai rencontré Chantal Bigot en 1993, ça a été le début d'un gros travail de recensement de tout l'œuvre de René Vivien, alors que je ne possédais rien. Voilà, donc ça a été une découverte. Et depuis, je n'ai de cesse d'enrichir ce fonds documentaire que j'essaie d'exploiter au fil des occasions qui me sont offertes, généreusement. Et je remercie encore les personnes qui m'ont donné l'occasion de m'exprimer ici. Et cette photo, je l'ai sur une clé USB, mais je ne pourrais pas vous la montrer. Mais je vous signale qu'elle figure sur la page de garde d'un livre de Virginie Sanders qui s'appelle La poésie de René Vivien et qui a pour sous-titre « Vertigineusement, j'allais vers les étoiles ». Voilà. Bon. Oui. Et oui, autre chose aussi, oui, vous savez que René Vivien a eu au cours de sa vie de nombreux admirateurs et aussi de nombreux admirateurs masculins. Et parmi ceux-ci, il y avait un savant appelé Salomon Reynac. Et le dit Salomon Reynac, en 1910, lorsqu'il a appris la mort de René Vivien, a eu lui aussi un coup de foudre. Il a découvert les qualités de cette poétesse. Il en est tombé pratiquement amoureux, puisqu'il l'appelait plus que Pauline. Et il a, jusqu'à très tard dans sa vie, rassemblé un fonds documentaire qu'il a versé à la Bibliothèque nationale à Paris, avec interdiction de l'ouvrir jusqu'au 1er janvier 2000. Voilà. Donc, dans ce fonds bibliographique, il y a deux petits cahiers de René Vivien. Et le troisième était inconnu, on l'avait perdu de vue. Et j'ai pu, grâce à Chantal Bigot, faire l'acquisition. Voilà, donc il est chez moi.
Merci. Je vais aller vite. Moi j'en suis restée à la biographie de Jean-Paul Goujon et aux œuvres complètes, poétiques complètes de Jean-Paul Goujon, qui, si je me souviens bien, date de 86. Alors, les œuvres poétiques, vous avez déjà répondu à ma question. Elles viennent d'être republiées à Aerosonix, je l'ignorais. Est-ce qu'il y a une biographie récente de René Vivien ?
Non. Il n'y a pas de biographie récente de René Vivien. Il y a eu des études qui ont été faites par diverses personnes qui suivaient un cursus universitaire et qui ont publié leur thèse. Il y a eu, en 2009, un colloque commémoratif du décès de René Vivien, donc 1909. Donc en 2009, il y a eu ce colloque. Et ce colloque a fait l'objet d'un recueil d'articles, d'un ouvrage collectif, donc, qui a été coordonné par et dirigé par Nicole Albert, et qui s'appelle René Vivien à rebours, qui a été publié aux éditions L'Harmattan dans la collection Horizon. À la suite de la journée commémorative qui a eu lieu à Paris, à laquelle j'ai participé aussi à la rédaction d'un des articles du livre, le tout premier sur l'adolescence de René Vivien, puisque j'ai exploité, disons, l'opuscule que j'avais. Et donc, il y a eu après ce colloque, il y a eu la publication des actes qui s'appelle René Vivien, une femme de lettres entre deux siècles, qui a été publiée aux éditions Honoré Champion. Je crois que c'est Honoré, je ne sais plus si le prénom. Oui, je crois que c'est Honoré Champion. Voilà, en 2012.
Voilà. Je voudrais, pour rebondir sur ce qui a été dit jusqu'à présent, bon, moi, je suis vraiment ravie de votre présentation. Et bon, puisque vous êtes grande connaisseuse et peut-être spécialiste de René Vivien, pourquoi ne pas envisager de faire, je sais pas, une brochure ou un livre à compte d'auteur et de mêler vos deux présentations que je trouve assez extraordinaires. Donc les extraits sont très beaux. Voilà, ils sont déjà insérés d'ailleurs.
Je vous remercie infiniment. Bon, c'est difficile d'accorder, disons, un travail très prenant, mais et de faire en parallèle des travaux de recherche. Mais lorsque je serai à la retraite, je m'y attellerai beaucoup plus de profondeur. Et c'est vrai que les articles pourraient faire l'objet d'une publication en recueil. Une biographie, je ne pense pas. Je pense que René Vivien détestait les biographies. Elle disait que bon, elle a tellement mis toute sa vie, et c'est vrai qu'en lisant son œuvre, on a vraiment la trame de la vie profonde et réelle et de la psychologie de René Vivien. Je trouve que les biographes le plus souvent déforment, sauf si ils projettent plus d'eux-mêmes que de la personnalité de l'auteur. Toutefois, je mettrai à part un petit peu la thèse de Jean-Paul Goujon, qui est un ouvrage critique, et c'est la première biographie critique qui a permis de remettre quand même en place beaucoup de choses et faire la part de tout ce qui était les clichés dont elle était, sous lesquels elle était ensevelie. C'est vrai que les autres biographies précédentes, celles de Yves-Gérard Le Dantec ou celles de Paul Lorenz, étaient des biographies qui faisaient une place trop large à l'anecdote, au quotidien, à la vie un peu, et puis aux clichés dont elle était abreuvée tout le temps. Donc voilà.
Est-ce que vous avez remarqué que, oui, je te donne la parole, que nos grandes lesbiennes, nos grandes femmes sont captées par les mecs? Leurs biographies sont toujours signées par des mecs. C'est incroyable, incroyable. Ça ne cesse pas. Jusqu'à récemment, attends, c'était qui? C'est Colette Renard? Je ne sais plus. Enfin, je sais pas. C'est un mec qui a fait sa biographie, je ne sais plus. Enfin, c'est tout le temps comme ça. Nathalie Barnet, n'en parlons pas. Enfin, bon. Voilà. Qu'est-ce que tu voulais dire?
Comme Nathalie Barnet, notre grande séductrice, était ma première héroïne, c'est grâce à elle que j'ai connu René Vivien. Et puis je me suis demandé,
toi aussi,
je te demande maintenant, est-ce que, à ton avis, j'ai trouvé que toutes les deux étaient très opposées, mais très similaires. Parce que leur écrit, pour moi, de ce que j'ai compris à l'époque, était très sensuel et très lesbien, dans la même direction. Et je pense que Pauline, j'aime bien son nom, n'était pas... Elle était dans la sexualité plus... Voilà, et Nathalie Barnet était très physique. Tout le monde sait ça, n'est-ce pas? Comme Vita Sackville-West, d'ailleurs. Bref, tu crois qu'elles étaient quand même une muse l'une pour l'autre, à ton avis, comme ça?
Absolument. Absolument. Je le crois très, très profondément. Je pense que sans Nathalie Barnet, il n'y aurait peut-être pas eu de René Vivien. Elle a été vraiment son inspiratrice, et même par-dessus ses autres, parce qu'elle a eu d'autres femmes dans sa vie. Il y a eu aussi une Turque, Kerime Türkan Pasha, bon, qu'elle a beaucoup aimée aussi. Mais elle est toujours revenue vers Nathalie Barnet. Nathalie Barnet, et pour Nathalie Barnet, René Vivien était sa première vraie liaison. Parce qu'elle était jeune. Précédemment, les liaisons qu'elle avait eues, bon, bah, c'était avec Yann de Pougy, notamment. Mais avec René Vivien, elles avaient le même âge. Hein, et ça a été vraiment quelque chose qui les a soudées l'une à l'autre. Et jusqu'à la fin, et d'ailleurs, quand on voit ensuite le devenir de Nathalie Barnet dans ses commémorations, elle n'a jamais oublié René Vivien, au contraire. Lorsqu'elle a ouvert son temple de l'amitié chez elle,
rue Jacob,
merci. La première séance, elle devait faire lire des poèmes de René Vivien, et ça lui a été interdit par la famille de René Vivien. Elle a dû attendre quelque temps pour pouvoir refaire cet essai, mais cette fois en ne révélant pas le nom, mais en disant simplement qu'il y aurait chez elle une heure commémorative de poésie. Voilà.
Je vous remercie. Je vous remercie parce que les mots qui étaient déjà des perles en les lisant, où je ne comprenais pas tout à l'époque, aujourd'hui, vous en avez transformé des diamants, toutes les deux. Merci.
Ah, merci, merci. Non, c'est moi qui vous remercie. Bon, non, c'est...
Bonjour. Petite question sur le carnet que vous avez récupéré, le troisième carnet. Est-ce que vous n'envisagez pas de le déposer à la BNF pour les futurs chercheurs? Parce que du coup, il y en a deux à la BNF, et comme on a déjà peu de fonds sur René Vivien, est-ce que vous avez envisagé quelque chose de cet ordre?
C'est une question pertinente. C'est une question pertinente. Je dois dire que pour l'instant, peut-être, ça fera partie de mon testament, mais pour l'instant, je compte bien l'exploiter à mon gré et le mettre à la disposition éventuelle des chercheuses. Je suis d'ailleurs en relation avec l'arrière-petite nièce de René Vivien à Londres, qui est Imogène Bright, oui, qui s'intéresse énormément. Alors là, pour le coup, les héritiers. Imogène Bright s'intéresse énormément. Imogène Bright, oui, c'est une petite bonne femme comme ça, qui est très très marrante, très pleine d'esprit, très très british, très british. C'est une nièce. Ah, oui. Bien, Vivien avait une sœur, et cette sœur a eu trois enfants, dont le premier était un garçon, dont Vivien était la marraine. D'ailleurs, la sœur l'avait appelé Paul. Et la deuxième, elle l'avait appelé René. Ce qui prouve bien que la sœur de Vivien avait de bons rapports avec René Vivien. Oui, elle avait une sœur, Antoinette. Toinette. Voilà.